Le cinéma au féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse ». Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
Elle fut la première actrice noire à faire la couverture de magazines aux États-Unis. Lena Horne, actrice et chanteuse née en 1917 et disparue en 2010, eut une vie intense et dramatique, faite de gloire, de concerts et de plateaux de cinéma, mais aussi d'embûches, d'humiliations et de déceptions liées à sa couleur de peau. Un parcours représentatif du destin des stars afro-américaines des années 40, 50 et 60, qui fait écho au sort des Noirs aux États-Unis à cette époque, avant que la ségrégation raciale ne prenne fin. Des revers qui la menèrent de la MGM au mouvement des droits civiques, aux côtés de Martin Luther King. Bref, une vie si passionnée et tragique qu'une série intitulée Black Bird, Lena Horne and America, est actuellement en cours de préparation aux États-Unis pour la chaîne Showtime. En attendant la série, voici l'histoire de Lena Horne, le rossignol révolté d'Hollywood. Quelques petits rappels biographiques sur la vie de Lena Horne. Donc elle est née en 1917 à New York. Elle a une enfance plutôt difficile. Ses parents divorcent quand elle a 3 ans et elle est trimballée par sa mère comédienne de théâtre, souvent en tournée aux quatre coins des États-Unis. À 16 ans, en 1933, elle est retirée de l'école par sa mère pour devenir chorus girl, donc vocaliste accompagnant un orchestre au Cotton Club de Harlem, où jouent les grands noms du jazz comme Duke Ellington, Louis Armstrong, devant un public totalement blanc, les Noirs n'étant pas acceptés. Ensuite, elle part en tournée avec l'orchestre de Noble Cecil, puis elle revient à New York, où elle intègre le Café Society, et c'est là qu'elle commence à se faire un nom. Lena Horne ensuite est choisie par Walter White, président de la NAACP, donc en français c'est l'Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur, et elle est choisie donc par Walter White pour passer une audition auprès de Louis B. Mayer, patron de la MGM. Donc cette association milite pour qu'acteurs et actrices noires obtiennent des rôles plus consistants dans l'industrie du cinéma. Jusqu'ici ils étaient donc cantonnés à des personnages de domestiques et de bonnes. Il faut savoir que la MGM, c'est un des plus gros studios des années 40 et 50, qui compte énormément de stars comme John Crawford, Lana Turner, Clark Gable, Katharine Hepburn, Fred Astaire, etc. Et Louis B. Mayer, son patron, souhaite montrer son engagement dans la lutte contre le racisme. Donc il embauche Lena Horne à la MGM en 1943. Et il faut dire aussi que c'est une chanteuse extrêmement belle, charismatique, qu'elle a une voix suave. Et donc elle devient la première actrice afro-américaine à signer un contrat de longue durée, donc de 7 ans, avec un studio hollywoodien, qui comporte une clause fondamentale, elle ne pourra pas incarner de personnage de domestique. Donc pour cet épisode, j'accueille Florence Colombani, journaliste, critique de cinéma, réalisatrice et écrivaine. Florence, vous avez écrit un livre passionnant, Les Indomptables, sur celle que vous appelez les quatre panthères d'Hollywood, Lana Turner, Ava Gardner, Grace Kelly et Lena Horne, paru en 2017 aux éditions Fayard. Donc on pourrait penser que les ingrédients sont réunis pour que Lena Horne devienne une grande star, mais les choses vont être plus compliquées que prévu lors de son arrivée donc à la MGM. Florence, est-ce que vous pourriez nous dire comment elle est accueillie au sein du studio ?
Donc, quand Lena Horne est embauchée par la MGM, c'est avec de grands espoirs de part et d'autre. Évidemment, pour elle, c'est extraordinaire. C'est une consécration, c'est aussi une première. Donc, c'est quelque chose de très flatteur et qui la rend tout à fait enthousiaste. Et du côté du studio, il y a une certaine fierté d'oser engager une afro-américaine pour être une vraie star, c'est-à-dire avec le traitement MGM. en sachant que la MGM a cette politique d'exaltation de la beauté féminine et de la mise en avant des stars. Pour Lena Horne, tout commence très bien à la MGM, dans le sens où elle, elle-même est très enthousiaste de ce nouveau contrat. Elle a le sentiment assez exaltant d'être une pionnière. Elle est aussi très fascinée par le cinéma, donc l'idée d'être une actrice de cinéma lui plaît beaucoup, même si elle n'a pas d'expérience là-dedans. Pour l'instant, elle n'est qu'une chanteuse. Et de l'autre côté, du côté de la MGM, il y a aussi une fierté de Louis B. Mayer d'être le premier patron de studio qui ose embaucher une Afro-Américaine pour être une star, pas pour être une énième domestique, mais vraiment pour être magnifiée à l'égal des très grands noms de la MGM à ce moment-là. Mais dès le premier jour de tournage pour Lena Horne, ça se passe mal, puisqu'elle arrive au fameux habillage, maquillage, coiffure, et les coiffeurs, enfin les coiffeuses qui lui sont assignées refusent de s'occuper d'elle, parce qu'elles ne veulent pas toucher les cheveux d'une femme noire. Donc c'est une humiliation épouvantable, une scène très difficile à vivre pour Lena Horne qui a le souffle coupé au point qu'elle n'arrive même pas à parler. Et donc dès le début, la tension liée au racisme est très forte. La beauté du début pour Lena Horne, c'est qu'elle est tout de suite dans un très beau film, et en plus un film particulier puisque tout son casting est noir. C'est un petit coin aux cieux de Vincente Minnelli. Elle-même connaît très bien Minnelli, ils ont une liaison à ce moment-là. C'est un homme très raffiné, très intelligent, très cultivé et qui, du coup, ne lui fait pas du tout sentir ce regard raciste qu'elle subit par ailleurs. Donc, il y a quelque chose de réconfortant pour elle dans la relation avec lui. Et en plus, c'est un rôle où elle est très mise en avant comme une femme fatale, puisqu'elle est la tentatrice et la vamp du film. Donc, du coup, sur le plan purement cinématographique, ça commence plutôt pas mal. Mais humainement, dès le début, c'est très dur pour elle.
Georgia Brown, what are you doing here?
I just wanted to say hello, see how you been. Ain't no harm in that, is it?
Well, ain't no harm in passing the time of day, I guess.
It's nice to know you're getting well again. I hope you ain't forgot me.
Oh, I ain't forgot you.
Then maybe you'll be coming around to Jim Henry's place to see me.
Et d'ailleurs, même de la part des acteurs afro-américains du studio, elle n'est pas très bien reçue, si je ne me trompe pas. Eux, ils ont peur, en fait, que son arrivée fasse qu'ils aient moins de propositions de rôles, parce qu'eux, ils se disent qu'ils préfèrent jouer des rôles de domestique ou de bonne plutôt que de rien jouer du tout. C'est le cas, par exemple, de Hattie McDaniel. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça se passe entre Lena Horne et Hattie McDaniel?
Alors, Hattie McDaniel, c'est le grand nom de la communauté afro-américaine de Hollywood à ce moment-là, puisque c'est l'actrice qui a joué Mamie, la nounou de Scarlett O'Hara, et qui a obtenu pour ce rôle l'Oscar du meilleur second rôle. Donc, c'est à la fois, évidemment, une actrice qui a dû incarner un des pires stéréotypes racistes qui soit, qui est ce rôle de Autant n'emporte le vent, et en même temps c'est une pionnière aussi puisque c'est la première actrice noire à avoir obtenu un Oscar. Donc c'est tout ce paradoxe vivant qu'est Hattie McDaniel, qui voit arriver la très jeune Lena Horne. Donc déjà il y a une grande différence d'âge entre elles, et en plus Lena Horne, avec cet élément de son contrat qui est extrêmement mis en avant par la publicité de l'époque, tout le discours autour de son contrat, qui est qu'il y ait écrit spécifiquement qu'elle ne jouera pas de domestique. Or, bien sûr, comme on sait tous, Hattie McDaniel n'est connue que pour des rôles de domestique. Pour elle, elle le prend comme un affront personnel, et c'est quelque chose qui la choque. Et comme elle a cette posture un peu de, je dirais pas de parrain, parce qu'il n'y a rien de mafieux là-dedans, mais enfin de personne qui a un ascendant sur la communauté afro-américaine, elle convoque Lena Horne, elle l'invite à prendre un thé, et en gros, elle lui explique pourquoi c'est très malvenu de prétendre qu'on ne veut pas jouer les domestiques. Et d'ailleurs, elle-même dit volontiers qu'il vaut mieux jouer une domestique qu'en être une. C'est un peu sa petite phrase pour expliquer ses choix de carrière. Donc, en effet, elle est accueillie avec beaucoup de méfiance par Hattie McDaniel. Il y a aussi, au générique de Un petit coin aux cieux, l'actrice Ethel Waters, qui est une diva absolue, parce que vénérée en tant que chanteuse par les Noirs américains. Même si elle n'a pas tellement une carrière d'actrice et les gens la connaissent pas forcément physiquement, mais en tout cas comme chanteuse, elle est très très appréciée. Et elle aussi est très jalouse et mécontente de l'arrivée de Lena Horne dans le paysage. Et l'ironie, c'est que la chanson qui devient un peu la marque de fabrique de Lena Horne, Stormy Weather, c'est en fait une chanson qui a été créée par Ethel Waters. Donc ça aurait sûrement, c'est un peu comme du sel sur sa blessure, que ce soit sa jeune rivale qui soit devenue l'interprète emblématique de sa chanson.
Donc justement, la chanson Stormy Weather qu'on a entendue plus tôt dans l'épisode, c'est une chanson qu'elle chante dans le film Symphonie Magique. Donc Symphonie Magique et Un petit coin aux cieux de Minnelli, j'ai l'impression que c'est les seuls films où Lena Horne incarne un personnage qui a une vraie place dans l'intrigue. C'est des films qui, donc il faut bien le préciser, vous l'avez dit, mais donc au casting entièrement noir, il n'y a pas de mélange entre guillemets entre les races. Et en fait, moi j'ai vu Symphonie Magique d'Andrew Stone, donc produit en 1943, et c'est vrai qu'on est quand même choqué par certaines scènes qui montrent une vision raciste des Noirs à l'époque. Il y a un show musical à un moment qui reprend les décors et l'univers de la jungle africaine. Les danseurs sont habillés en tenue africaine, il y en a qui sont déguisés en animaux de la jungle. Donc c'est vrai qu'on est un peu choqué quand on regarde aujourd'hui ce genre de film en 2021, et j'ai l'impression que en fait sa carrière finalement elle est assez courte. Enfin, quand on regarde le nombre de films dans lesquels elle joue dans les années 40-50, c'est finalement qu'une dizaine de films quoi, et pratiquement que des comédies musicales. Donc finalement, est-ce que sa carrière à la MGM n'est pas une succession de déceptions?
Ah oui, c'est une histoire terrible, parce que la MGM fait un acte quand même qui est assez courageux dans le contexte de l'époque, dans le sens où c'est un acte anticommercial, puisque embaucher une actrice noire américaine, c'est se fermer des cinémas du Sud, où les cinémas vont refuser de projeter les films parce qu'il y a une actrice noire qui n'est pas dans un rôle de domestique, etc. Donc ils s'engagent dans cet acte assez courageux, mais ensuite, c'est aussitôt la panique à bord. Et donc, la MGM, qui pourtant, enfin, c'est pas comme si Louis B. Mayer avait découvert le racisme ambiant des États-Unis et ce problème fondamental commercial des cinémas qui refusent tout film avec un noir dans un rôle actif, un rôle important, un rôle dramatique. Mais une fois qu'il le constate vraiment, une fois qu'il a Lena Horne sous contrat, il décide que non, il peut pas lui donner de rôle important, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui donne l'impression que ça va se faire et lui donner sa place, ça ne se fait pas. Par exemple, il y a longtemps un projet d'adaptation de La cabine de l'oncle Tom, donc le fameux livre anti-esclavagiste d'Harriet Beecher Stowe, qui aurait été un projet parfait pour Lena Horne. Il y a un personnage de mulâtre, comme on dit à l'époque, mais donc de femme à la peau plutôt claire, qui est un peu le personnage féminin important. Et ça ne se fait pas, toujours pour les mêmes raisons, parce que commercialement, ça paraît trop dangereux de toucher à ces sujets. Ce qui se passe, c'est que pour la faire tourner quand même, parce que elle est sous contrat et on la paye tous les mois, donc pour la rentabiliser un peu, apparaît dans des films musicaux en effet, et ce sont des films, ce sont pas des comédies musicales comme les grands classiques qu'on a tous en tête, à la Chantons sous la pluie, où il y a une intrigue narrative et il y a des ballets qui font partie de l'histoire, mais ce sont vraiment des films à séquences musicales, des sortes de spectacles musicaux avec des ambiances différentes. Et donc ça, c'est en effet quasiment l'essentiel de sa carrière à la MGM. Oh, listen, sister, I love my Mr. Maine, and I can't tell you why. There ain't no reason for me to love that man. It must be something that...
en 1951 et adapté au cinéma une pièce à succès de Broadway, Showboat. Et ce sera une énorme déconvenue pour Lena Horne parce qu'elle pensait hériter du rôle de Julie Laverne qu'elle avait déjà interprété dans un film. C'est un personnage qui est censé être métisse. Et en fait, le rôle est donné à Ava Gardner, qui est donc la grande amie de Lena Horne à la MGM. Et donc ça, c'est une grande déception pour Lena Horne, une trahison. Et j'ai l'impression que c'est aussi le moment où elle se dit que en fait il faut qu'elle revienne à son amour premier qui est la chanson.
Oui, c'est cette histoire de Showboat, c'est vraiment d'une grande cruauté pour elle parce que c'est un rôle de femme, enfin toute l'histoire autour de cette de Showboat, enfin de ce personnage de Julie, c'est justement qu'elle a l'air d'être blanche, mais en fait elle est noire, parce qu'il y a toute cette règle américaine qu'on appelle the one drop rule, qui est donc l'idée que si on a une seule goutte de sang noir, on est considéré comme noir, avec toutes les privations de liberté qui vont avec. Et donc ça paraît fait pour elle. En plus, c'est un rôle avec de très belles chansons. Elle a en effet chanté une des chansons dans un de ses films musicaux. Donc tout semble la préparer à avoir ce rôle. Et puis on donne le rôle à Ava Gardner, qui se trouve être sa meilleure amie. Donc c'est une double blessure. Et alors l'ironie de l'histoire aussi, c'est que le metteur en scène George Sidney, qui n'a aucune voix au chapitre dans le casting, puisque c'est toujours la direction du studio qui décide ce genre de choses, lui-même est très déçu de ne pas avoir Lena Horne pour jouer ce rôle de Julie, et donc demande à Ava Gardner d'imiter la façon dont Lena Horne chantait Julie. Donc on est dans une sorte de situation totalement absurde, ouais, où l'actrice et chanteuse qui devrait à l'évidence avoir le rôle ne l'a pas, et on demande à celle qui l'a d'imiter celle qui ne l'a pas, qui pourrait être très bien, qui est libre, qui est sous contrat, etc. Donc c'est totalement fou. Et Lena Horne, en effet, là, est très blessée et surtout comprend qu'il n'y a rien à espérer, que ça fait trop longtemps que ça dure aussi, ça fait vraiment plusieurs années. Et donc, elle décide de boycotter les contrats de chanteuses qu'on lui propose dans différentes villes des États-Unis, ce qui fait qu'elle n'est plus à Los Angeles, elle n'est plus là. Et ça arrange finalement la direction du studio qui la laisse partir. Autant quand Ava Gardner, justement, ne se présente pas pour un tournage, parce qu'elle est en train de passer des vacances avec son mari Frank Sinatra. Louis B. Mayer est absolument ulcéré, la menace de procès et trouve des tas de sanctions. Autant quand Lena Horne disparaît de la circulation, personne ne proteste parce que ça arrange vraiment tout le monde.
Et j'ai l'impression qu'en fait son histoire, l'histoire de Lena Horne, elle est vraiment représentative du traitement des Noirs à une époque où en fait la ségrégation raciale est encore en place dans nombre d'États américains, et en fait le racisme, même à Hollywood, est encore très présent. Rien que le surnom qu'on lui donne, la star chocolat, je trouve que c'est quand même... représentatif de ce racisme. C'est quand même un surnom qu'on n'aurait pas idée à donner aujourd'hui. Et donc, d'ailleurs, elle va beaucoup souffrir. Elle supportait pas qu'on l'appelait comme ça. Et si je me trompe pas, les réalisateurs noirs n'étaient pas acceptés derrière la caméra. Donc, c'est vrai que même à Hollywood, où on pourrait penser que les mœurs sont plus avancées que dans le reste des États-Unis, que dans les campagnes ou le américaine ou les États du Sud qui sont extrêmement ségrégés, ben finalement, même à Hollywood, il y a un racisme ambiant dont elle souffre.
Ah oui, sur le plan de la ségrégation, Hollywood n'est pas du tout en avance sur le reste du pays, loin de là. C'est plutôt une image exacte de ce qui se passe dans le reste des États-Unis, c'est-à-dire que on choisit, une sorte d'establishment blanc choisit très soigneusement à quel poste les Noirs sont autorisés. Et donc, il y a toute une batterie de choses qui leur sont complètement fermées. Et même des petites avancées, comme la présence de ces quelques acteurs un peu connus, qui sont Noirs et qui ont des rôles plus importants et tout ça. Même ça, c'est en fait un signe aussi des problèmes énormes. Quand Lena Horne a son contrat avec la MGM, elle achète une maison dans un quartier chic de Beverly Hills, et ses voisins font une pétition pour la faire partir. Donc, et c'est parmi ses voisins, c'est Humphrey Bogart, qui est un de ses voisins, qui prend sa défense et qui insiste auprès du quartier pour qu'elle puisse rester. Mais bon, ça donne une idée quand même de l'ambiance et de ce qui est considéré comme normal aussi, y compris dans ce milieu. Et d'ailleurs, c'est quand même un lieu très paradoxal, Hollywood, parce que tous les grands patrons de studio, évidemment, sont juifs. Ils ont souvent eux-mêmes émigré directement d'Europe centrale, ou alors ils sont des enfants d'émigrés qui ont fui les pogroms, etc. Et pourtant, il y a un antisémitisme à Hollywood incroyable. Les acteurs juifs changent de nom pour surtout cacher leurs origines. Il y a des clubs privés qui interdisent les juifs. Enfin, c'est vraiment un endroit du pays qui n'échappe pas du tout aux problèmes généraux des États-Unis.
And I saw that my situation was just like my father thought. They're going to give you this one part, and that's it. And he was telling the truth. They hadn't made me a maid, but they hadn't made me into anything else either. I hated California. I mean, I hated California. I had finally said to myself, go and do what you know the best, you know. Forget this movie.
Donc finalement, j'ai l'impression qu'elle va plus s'épanouir, Lena Horne, dans sa carrière de chanteuse que d'actrice, hein, qu'elle a vraiment une carrière d'actrice qui est avortée, qui est frustrante. Elle dit, elle a des mots qui sont très durs, elle dit, comme l'avait prédit mon père, ils m'ont donné un rôle et c'est tout. Ils n'ont pas fait de moi une bonne, mais ils n'ont rien fait de moi du tout. Et en fait, c'est ça ce qui va l'amener à s'engager de plus en plus activement au sein du mouvement des civil rights dans les années 50 et surtout dans les années 60. Donc elle va rencontrer Martin Luther King, se rapprocher de cette grande figure, de lui, de James Baldwin, de Medgar Evers. Elle rencontre Robert Kennedy en 63. Elle est présente la même année à la marche sur Washington. Donc, toutes les raisons qu'on a exposées depuis tout à l'heure font que son engagement auprès du mouvement des civil rights est assez évident, en fait. Hein. C'est vrai qu'elle a subi beaucoup d'humiliation et de souffrance. Mais est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier qui fait que, voilà, dans les années 60, au début des années 60, elle va s'investir activement auprès du mouvement?
En fait, elle a un déclic, mais beaucoup plus tôt, mais un déclic intérieur qui ensuite aura cette conséquence dans sa vie. Elle est appelée à divertir les soldats. Ça, c'est quelque chose que toutes les grandes stars de cette époque font. Et donc, elle est sur une base militaire où on lui demande de chanter. Et elle se rend compte qu'il y a des prisonniers nazis au premier rang. Et bon, elle est quand même très déstabilisée de devoir en gros divertir des membres de la Wehrmacht, jusqu'à ce qu'elle comprenne que s'il y a ces prisonniers allemands là au premier rang, c'est parce qu'il y avait des places vides qui correspondent à celles des soldats noirs américains, donc des GIs qui n'ont pas le droit en tant que noirs d'assister au spectacle, et aux côtés des blancs en fait, aux côtés des soldats blancs. Et alors ça la révolte tellement profondément. Au point qu'aujourd'hui, dans la mémoire collective américaine, et notamment afro-américaine, elle existe beaucoup plus comme une icône de la lutte pour les droits civiques que comme une chanteuse ou une actrice. C'est beaucoup plus cette dimension-là dont on se souvient que de ses œuvres. Enfin, plus personne ne voit ses films, par exemple. Ça, je pense vraiment que c'est... ni n'écoute vraiment ses disques. C'est vraiment comme symbole de la lutte qu'on s'en souvient. Les grandes rencontres ensuite qu'elle va avoir, c'est en effet James Baldwin, Martin Luther King, Medgar Evers, c'est vraiment des gens, elle va comprendre comment elle peut les aider aussi en ayant ce dialogue avec eux. Et donc elle est au fameux rendez-vous avec Robert F. Kennedy, où certains membres très importants de la communauté noire le supplient de comprendre qu'il faut aider la cause davantage, et qu'il faut sortir de cette espèce de position de neutralité que les Kennedy ont adoptée. Donc elle est là à des moments clés de l'histoire de la lutte pour le droit civique, puisqu'elle est aussi là au moment de la marche sur Washington et donc du fameux discours « J'ai fait un rêve » de Martin Luther King.
I'm a black woman. I'm not alone. I'm free. I say I'm free because I no longer have to be a credit. I don't have to be a symbol to anybody. I don't have to be a first to anybody. I don't have to be an imitation of a white woman that Hollywood sort of hoped I'd become. I'm me. And I'm like nobody else.
Je rappelle que votre livre Les Indomptables porte sur le parcours de quatre stars hollywoodiennes, donc Lana Turner, Ava Gardner, Lena Horne et Grace Kelly, donc trois actrices, Turner, Gardner et Kelly, qu'on ne présente plus, et une, voilà, finalement, qu'on connaît très peu en France, malgré la lumière que vous avez mise sur elle, donc Lena Horne. Vous la qualifiez de personnage merveilleux, romanesque et injustement oublié. Et je voulais savoir comment expliquer qu'on la connaisse si peu en France.
Je pense qu'en France, on connaît les actrices. Enfin, il y a une certaine mémoire cinéphile des actrices qui ont joué dans des grands films. Et malheureusement, c'est pas le cas de Lena Horne. Enfin, il faut vraiment s'intéresser à la carrière de Minnelli pour avoir vu Un petit coin aux cieux et du coup la connaître. Mais c'est vrai que sinon, aucun de ses films ne reste comme un grand film. Et donc, c'est tout simplement une question de mémoire cinéphile, malheureusement. Par exemple, Dorothy Dandridge, pour un cinéphile français, est peut-être un peu plus identifiable à cause de Carmen Jones. Et encore, hein, je sais que les gens connaissent forcément ce nom, mais je crois aussi qu'on a eu assez peu de réflexion en France sur cette question de l'existence des Noirs américains dans le cinéma hollywoodien. Et enfin, en tout cas, c'est une prise de conscience assez récente.
Merci au Mouvement Up de coproduire ce programme et un immense merci Florence Colombani. Je rappelle que votre livre Les Indomptables, paru aux éditions Fayard, est disponible en librairie.